On me demande souvent, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Bah pour ça, quoi de mieux que de demander l'avis à d'autres entrepreneurs ? Pour cette deuxième saison du podcast « Mes premières fois dans l'entrepreneuriat », vous allez découvrir sans tabou et avec authenticité les vraies coulisses des entrepreneurs qui se battent pour faire exister leur entreprise. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti ! Et avant de démarrer, les amis, si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur. Merci d'avance, c'est parti pour l'épisode. Salut tout le monde, je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir mon invité et j'ai fait exprès d'employer le mot « heureux » parce que c'est synonyme de bonheur. Et aujourd'hui, je vais accueillir Marc Baudy, qui est le CEO du bonheur en règle générale. Justement, on le voit un petit peu sur LinkedIn où il nous partage un petit peu ce bonheur au quotidien et revendique vraiment cette partie à intégrer dans nos vies. Marc, qu'est-ce qu'il fait ? Il aide ses clients justement, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit, à bien s'exprimer. Il va nous en dire un petit peu plus. Salut Marc, merci d'avoir accepté l'invitation. Je te laisse te présenter et nous dire qui tu es et ce que tu fais.
Salut Alexandre, très content d'être avec toi, avec tous les invités aussi, tous les auditeurs qui vont écouter. C'est un vrai plaisir, merci de l'invitation. Je suis très touché parce que moi, je suis un bébé entrepreneur. Effectivement, hein, je me décris comme ça, je te l'ai dit. Qu'est-ce que je fais ? Globalement, moi, j'aide les gens à bien communiquer à l'oral. Je fais de la formation prise de parole en public pour des pitchs, pour des levées de fonds, pour des conférenciers et aussi à l'écrit. Puisque notamment, je suis ghostwriter pour des CEO.
Ok, super présentation. Merci à toi pour ça. Concrètement, c'est quoi les problématiques, justement, avant de rentrer un petit peu dans ces premières fois qu'on va aborder ensemble, les problématiques les plus fréquentes que tu rencontres avec tes clients ? Est-ce que c'est lié à la timidité, justement, cette expression à l'oral qui n'est pas forcément actée pour tout le monde ? Est-ce que c'est autre chose ? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ?
Alors, les problématiques sont différentes entre l'oral et l'écrit. À l'écrit, on va dire, c'est surtout un manque de temps, une méconnaissance de la plateforme LinkedIn pour les CEO, par exemple, et en même temps, une volonté de s'exprimer. Les leaders, aujourd'hui, doivent s'exprimer, doivent inspirer, et ils doivent communiquer sur leur marque personnelle. Donc, c'est principalement, on va dire, une question de temps, et c'est leur problématique. L'oral, c'est différent. À l'oral, si tu veux, la problématique principale, c'est qu'en France, on est vraiment mauvais, on n'est absolument pas formé à parler à l'oral. On ne sait pas construire un discours, une structure logique, on ne sait pas convaincre, on ne sait pas utiliser des arguments, on ne sait pas utiliser des métaphores, on ne sait pas utiliser des comparaisons. Tout ça, on est absolument démuni. Donc, c'est plus une volonté d'être impactant que je viens régler chez mes clients.
Et c'est super important, c'est un vrai sujet. Et quand tu vois justement la différence avec les États-Unis, par exemple, où dès qu'ils rentrent de week-end, justement, les professeurs, la maîtresse, en règle générale, demandent justement aux élèves de s'exprimer sur leur week-end. C'est un super exercice parce que ça permet justement de travailler cet oral, les expressions, de savoir les poser. Et je voulais avoir ton avis là-dessus. Justement, ma fille, bon, elle est assez jeune aujourd'hui, elle a 17 mois. J'ai l'intention, justement, quand elle sera un petit peu plus grande, quand la parole sera déjà présente, de la laisser s'exprimer pendant 30 secondes, une minute, sans laisser de blanc pour lui dire « Voilà, raconte-moi ta journée. » Donc, on fera ça vers 17h, 18h, quand elle rentre justement de chez la nounou ou de chez la mamie. « Raconte-moi ta journée, comment elle a été ?» Qu'est-ce que tu en penses, justement, de mettre en place ce type d'exercice pour nos enfants aujourd'hui ?
Ça, c'est excellent. De toute façon, il faut carrément tirer des leçons des Américains. Ils sont extrêmement forts sur ça. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre aux côtés de conférenciers américains. C'est pour ça que finalement, j'ai été aussi conférencier grâce à eux. Donc, l'exemple que tu prends là, il est extrêmement utile. Il faut encourager la parole. Il faut que ce soit naturel. Il faut qu'on soit habitué à répondre à des questions à l'improviste, sans être préparé, sans stresser, en étant capable rapidement, tu vois, de monter une petite structure. Et ça, c'est excellent l'exercice que tu proposes, parce que ça veut dire que ta fille, elle va devoir très rapidement avoir une petite structure logique de sa journée, soit chronologique, soit par ordre d'importance, mais peu importe. En fait, elle va prendre cette habitude de structurer sa pensée avant de parler. Et ça, c'est excellent.
Yes, je te dirai ça dans quelques mois, quelques années.
Je vais suivre ça avec intérêt.
Comment elle évolue. Merci à toi. On démarre avec cette première fois plutôt. J'ai dit ce premier parce que c'est le premier lancement. Donc, comme tu dis, tu es un peu un bébé preneur, entre guillemets. Mais pour moi, ce n'est pas la quantité qui est importante, c'est vraiment la qualité. Je crois quand même que même si tu as démarré cette année, donc plutôt en 2023, c'est assez riche par rapport à tout ce que tu as pu vivre. Donc, on va parler de ton premier lancement, février 2023. Dis-nous-en un petit peu plus.
Oui, c'est ça. Moi, comme je te l'ai dit, je suis vraiment un bébé. Je me sens par rapport à toi ou sur LinkedIn, il y a des entrepreneurs qui sont là depuis des années, qui communiquent beaucoup, qui transmettent beaucoup de valeurs. Moi, je me sens vraiment comme un bébé parce qu'effectivement, moi, j'ai créé mon entreprise en février 2023. En fait, j'ai un parcours un petit peu atypique puisque j'ai travaillé dans l'informatique, les systèmes embarqués. J'ai été traducteur et coach d'acteurs de doublage. J'ai été consultant médical. Et en septembre dernier, je suis en fin de mission avec l'association pour laquelle je bossais. Et je me dis, OK, avec un CV comme ça en France, tu fais quoi? Bon, voilà, c'est compliqué. Donc, j'ai envoyé des CV quand même, mais les RH me disaient tous, mais monsieur, on ne sait pas où vous mettre avec une expérience comme ça. On ne sait pas ce que vous pouvez faire. Donc, je me suis dit, OK, lance-toi. T'as la chance d'avoir été conférencier pendant 20 ans, d'avoir formé 400 personnes à la prise de parole, d'avoir formé plus d'une centaine d'acteurs de doublage. C'est un véritable besoin en France. Lance-toi. Deviens entrepreneur. Donc, ça me faisait un peu peur parce que j'ai pas d'entrepreneur vraiment dans mon entourage. On n'est pas formé à devenir entrepreneur. Donc j'avais cette peur-là et en même temps, pas le choix. Je veux dire, il faut bien y aller, quoi. Il faut bien que l'argent rentre. Donc, puisqu'il n'y a pas de travail, moi, je veux aussi contribuer à la société. Ben, je me suis lancé. J'ai commencé à communiquer sur LinkedIn, tu vois, fin décembre 2022, en me disant, OK, je vais en faire mon canal d'acquisition. Donc, je me suis mis à poster tous les jours. Je parlais de la prise de parole en public et du bonheur aussi, puisque c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, c'est comme ça, en fait, que le lancement s'est fait en février de cette année, 2023.
OK, top. Une question qui me vient, du coup, c'est assez paradoxal parce que l'entrepreneuriat en tant que tel, quand on n'a pas d'expérience, on apprend sur le terrain. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas forcément d'outils pour... On n'est pas formé, en tout cas, pour être entrepreneur. On se forme sur le terrain. En tout cas, la plupart des entrepreneurs avec qui j'ai pu échanger ou interviewer, plus d'une centaine cette année, vraiment se sont formés, en tout cas, sur le terrain. Est-ce que toi, qui as un petit peu justement cette grande expérience avec ces Américains où tu as eu cette formation pour notamment t'exprimer à l'oral, est-ce que quand on a cette aisance à l'oral, quand on est un bon communicant, ça aide au quotidien justement dans l'entrepreneuriat, mais est-ce que quand même, c'est pas forcément ça qui va enlever tous les autres freins justement à la gestion au quotidien?
Ouais, c'est une super question. Oui, je pense que ça aide, évidemment. On connaît l'impact d'une parole de qualité, d'un discours construit, de la capacité à trouver des arguments convaincants. Donc forcément, ça a un impact aussi bien à l'oral qu'à l'écrit d'ailleurs, puisqu'à l'écrit, sur LinkedIn, c'est quand même globalement les mêmes mécanismes pour convaincre, pour argumenter, pour finalement faire venir des clients à soi. Donc l'oral et l'écrit, là, se rejoignent très bien. Donc oui, ça aide maintenant. Comme tu dis, je veux dire, ça règle pas les problèmes de compta, de quel logiciel je vais utiliser, par quoi je passe, comment je fais pour mes visios, enfin des trucs tout bêtes, hein, mais je veux dire, comment je m'organise, ma semaine, je fais comment, je fais facturer avec quoi, est-ce que je dois ouvrir un compte bancaire pro ou pas, enfin tu vois, quel statut je vais choisir, tout ça, c'est pas parce que tu sais bien parler que ça règle ces questions-là, quoi.
Ouais, j'aime bien ta réponse. Et justement, c'est pas parce que tu as cette aisance que tu vas pouvoir t'ouvrir toutes les portes. Comme tu dis, ça peut aider. Mais je te posais aussi cette question par rapport à quelqu'un qui nous écouterait et qui serait notamment très timide, qui serait vraiment introverti, qui sait pas par où commencer. Au-delà de l'aspect justement facturation, gestion de la comptabilité et gestion de sa société au quotidien, ce serait quoi le premier conseil que tu donnerais à une personne qui veut faire quelque chose, qui a envie en tout cas, mais qui est un petit peu bloquée justement par sa timidité qui est assez abusive pour elle ou pour lui?
Ouais, quelqu'un qui est très timide, c'est quand même compliqué parce que l'entrepreneuriat, tu as besoin d'aller vers les autres, d'une façon ou d'une autre. Certains réussissent à ne le faire que sur LinkedIn quasiment. Pour moi, c'est quasiment mon seul canal d'acquisition. Mais pour beaucoup, ça passe quand même par du réseautage. Donc, tu es obligé d'aller dans des événements physiques, de rencontrer des gens, de faire de la prospection, t'es obligé de faire tout ça. Donc si t'es hyper timide, peut-être la première chose, ce serait vraiment de te faire accompagner pour pouvoir justement lutter contre cette timidité et au moins réussir à franchir ces petites barrières de présentation, de pitch un peu de ton activité, de valeur que tu peux apporter à tes clients. C'est pas forcément grand-chose, mais je pense que oui, si tu veux te lancer, t'as pas le choix. Il faut te faire accompagner sur ça si t'es hyper timide.
Ok, hyper intéressant. Se faire accompagner, être bien entouré. Et on peut aussi se faire accompagner par toi par la même occasion, on est d'accord?
Oui, bien sûr, avec plaisir. Mais il y a plein de formateurs qui sont excellents. Et ça manque pas largement sur LinkedIn. Mais avec plaisir pour moi aussi, bien sûr.
Yes, tellement important de se faire accompagner. On aborde avec toi du coup cette deuxième première fois où tu vas nous parler de tes premiers clients qui sont arrivés, je crois, assez vite, février 2023 aussi, donc en même temps que ce lancement. Peux-tu nous en dire un peu plus et davantage?
Oui, c'est ça. Février 2023, premier client, donc sur LinkedIn, je reçois un message. Une fille qui me dit, ben écoute, moi j'ai besoin d'être formée à la prise de parole. Je vais arrêter de fumer pour me payer le coaching avec toi. Donc elle me dit, ben c'est dur parce que voilà, on connaît la dépendance à la cigarette. Hein. Mais elle a dit, voilà, c'est de l'investissement et j'ai un projet pour lequel je veux absolument être accompagnée. Sa difficulté à elle, c'était que quand elle s'exprimait, elle n'arrivait pas à donner son avis sans être tranchante. En gros, voilà, la première fois, tu vois, ça me fait rigoler parce que t'avais l'impression qu'elle voulait te tuer, la fille. Alors qu'en fait, elle est hyper gentille quand tu la connais. Elle est vraiment gentille, mais c'est juste sa façon de parler. C'est au-delà de cash, tu vois. C'est presque violent. Donc oui, c'était compliqué pour elle de porter un projet qui l'animait en emmenant les gens avec elle plutôt qu'en les menaçant, j'ai envie de dire.
Donc en gros, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a une volonté en fait pour elle de s'exprimer, d'avoir une fédération, c'est-à-dire fédérer vraiment les gens. Ouais. Je grossis un peu le trait. Et dans son discours, elle était plutôt dans la division, voire même un peu plus que la division, parce que comme tu dis, elle était assez radicale, si
ouais,
je comprends.
Exactement. C'était vraiment ça son problème. Donc on a fait plusieurs sessions de coaching ensemble. Et ça a duré un petit moment quand même. Et finalement, elle a bien réussi à transformer sa façon de parler, même dans le ton, tu vois, à devenir beaucoup plus doux, beaucoup plus calme, avoir un débit beaucoup plus posé. Et aussi, bien sûr, dans le contenu, à être beaucoup plus, comme tu dis, fédératrice, emmener les autres, les convaincre par des arguments, plutôt que par la terreur, la peur, j'ai envie de dire. Même si c'est un peu extrême, hein, c'était pas tout à fait comme ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne un peu de là où on partait.
Ok, donc tu as réussi à bien l'accompagner là-dessus. Ouais. Question que tout le monde se pose, a-t-elle arrêté de fumer?
Eh bien non, malheureusement, elle a repris après la fin de notre coaching.
Mais elle a arrêté en tout cas d'agresser les gens, si je comprends bien.
Oui, c'est ça, c'est déjà pas mal, moi je suis assez content de ça.
Et ce que j'aime dans ton métier justement, tu me dis ce que t'en penses. Moi j'ai une vision un petit peu particulière de l'expression, c'est-à-dire que quelqu'un qui hurle, quelqu'un qui, par exemple, dans la rue vient te voir, si je parle dans l'extrême, veut t'agresser, entre guillemets, verbalement, plutôt qu'à côté, si tu l'opposes à une personne qui est assez calme et qui te dit simplement, en te regardant droit dans les yeux, « Écoute, si tu me cherches, je vais te faire très mal », mais tu sais, d'un ton très calme et très posé. Moi, c'est plus la personne qui a un ton très calme qui me fait peur, plutôt que celle qui aboie justement pour rien dire. Je voulais avoir ton avis là-dessus.
Oui, c'est souvent le cas. Enfin, après, il y a des cas particuliers, mais en tout cas, d'une manière générale, je trouve que c'est souvent le cas parce que la maîtrise est une force. Donc, quand tu te maîtrises dans ce que tu dis, c'est que tu as une grande force et cette force-là, elle peut aussi être utilisée pour réellement faire mal. Alors que quand tu ne te maîtrises pas, oui, bien sûr, ça peut déboucher sur quelque chose de violent derrière, mais souvent, c'est plus que tu t'en veux à toi-même, que tu as beaucoup de choses à régler, qu'une réelle volonté d'aller faire mal.
Est-ce qu'on a des petits exercices, alors sans nous divulguer justement toutes les astuces liées à ton accompagnement, mais des petits exercices au quotidien qu'on peut appliquer pour notamment apprendre à se canaliser ou plutôt se maîtriser?
Alors pour moi, la grande chose, c'est la respiration. En France, on ne sait pas respirer. En fait, 9 personnes sur 10 respirent avec une respiration thoracique au lieu de respirer avec une respiration abdominale. Respiration thoracique, c'est bien souvent une respiration de stress où on entretient notre stress. En fait, il faut savoir qu'à la naissance, les bébés commencent à vivre avec cette respiration abdominale, mais très vite, ils développent la respiration thoracique, justement parce que même les bébés sont dans un environnement de stress. Et dans la vie, ben, souvent le cas. Donc, il faut réapprendre à respirer à notre corps pour utiliser la capacité pleine de nos poumons. Et là, on va justement venir bien diminuer notre rythme cardiaque, notre pression artérielle, mieux oxygéner nos tissus et donc mieux maîtriser notre corps, être plus calme.
Hyper intéressant et c'est marrant ce que tu dis parce que, tu vois, quand j'ai commencé à interviewer mes invités, j'avais cette notion de stress que je n'avais pas pris en compte. C'est-à-dire tu dois te concentrer sur les questions, tu dois te concentrer aussi sur ce que la personne va te répondre. Et ce facteur-là, du coup, a amplifié un petit peu ce stress que j'ai pu avoir dans les premiers épisodes. Et je me suis rendu compte après au montage, c'est justement la personne qui m'accompagne, Victor, sur cette partie, qui m'a dit « Mais mec, ça s'entend que parfois, t'es un petit peu stressé. » Et je faisais beaucoup de
« Ah oui. »
Tu sais, parce que justement, je respirais de manière, comme tu dis, pas abdominale. Et c'est ça qui était un petit peu problématique. Ça va un petit peu mieux là-dessus. J'ai appris justement à canaliser tout ça. Mais je rejoins sur ce que tu dis. C'est vraiment important de le maîtriser.
Et d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu dis, l'aspiration par la bouche, comme ça, là, un peu, alors je grossis le trait, mais ça communique énormément de stress. Donc ça, c'est-à-dire que les gens entendent du stress, parfois même quand on n'est pas réellement stressé, mais ça communique du stress. Donc ça, c'est quelque chose dans les accompagnements que je fais aussi, auxquels je suis très attentif et qu'on essaye de venir gommer.
Au fur et à mesure.
Parce que c'est une petite chose très simple, mais voilà, en fait, il faut juste en prendre conscience, l'enlever et déjà on diffuse beaucoup moins de stress.
C'est ça qui est important, c'est en prendre conscience, parce que moi, justement, j'en avais pas conscience. Oui. C'est en réécoutant les enregistrements que là, je me suis dit... Eh mec, il y a un problème, c'est parce que tu es en train de transmettre quelque chose qui n'est pas positif. Ok, c'était une petite aparté. On va du coup passer à cette troisième première fois où tu vas nous parler de ta première erreur, bon, qu'on fait tous, je pense, quand on est entrepreneur. Cette fois-ci, c'est l'erreur où tu as justement augmenté un petit peu tes tarifs trop tôt. Ben, c'est plutôt bien parce que tu as beaucoup justement d'entrepreneurs, en règle générale, qui n'osent pas en tout cas afficher un prix assez... en rapport justement avec leurs valeurs et ce qui les représente. Mais là, du coup, toi, tu t'es dit peut-être, ça fonctionne bien, donc je vais augmenter mes tarifs. Mais pour toi, du coup, ça a été une erreur.
Oui, ça a été une erreur. En fait, moi, pour être très franc et très transparent, hein, j'ai commencé à 60 euros de l'heure. Je me suis dit, OK, c'est pas mal, ça me semble raisonnable. Je connaissais pas trop les tarifs, tu vois, j'avais pas d'idée. Ça aussi, c'est une chose qu'on t'apprend pas, hein, comment trouver les tarifs au début. Donc je commence comme ça, j'ai cette première cliente, j'ai d'autres clients, et tous me disent, écoute, franchement, c'est pas assez cher, quoi.
Ah oui, eux-mêmes,
donc, c'est eux-mêmes ça. Qui te disent... Ouais, c'est ça. Donc là, je me dis, ok, bon, bah, je vais passer à 100 euros de l'heure. Donc très rapidement, je crois que c'est en mars, hein, donc moins d'un mois après le lancement, je passe à 100 euros de l'heure. Et là, les clients continuent de me dire, mais écoute, c'est pas assez cher. Bon, ok, je me dis, bon, ben, je vais mettre 200 euros de l'heure. Et là... encore des clients me disent, mais c'est pas assez cher par rapport à ce que tu délivres, à ce que tu nous permets d'obtenir derrière. Il faut te rendre compte qu'en fait, nous, derrière, on fait du business, on gagne de l'argent. Et en fait, en quelques séances avec toi, on peut obtenir vraiment des trucs hyper importants en termes de chiffre d'affaires. Donc c'est pas assez. Bon, je me dis, OK, je vais aller à 250 euros de l'heure. Mais tu vois, donc ça va très vite. En fait, 60 euros, 250 euros de l'heure, c'est quand même incroyable, quoi. Bon, et là, après, bah, du coup, j'ai du mal à vendre, quoi. Forcément, hein, tu changes de public à 250 euros de l'heure, c'est plus les mêmes gens. Là, ça devenait compliqué, quoi. Donc, je me suis dit, OK, ce que je vais faire, c'est que si les gens prennent un package, je reste à 200 euros de l'heure. C'est une fois, une séance, 250 euros de l'heure, et si un package, c'est 200 euros de l'heure. Et ça marche. Mais voilà, il y a eu tout ce questionnement, tu vois. Jusqu'à Quel tarif je monte, quoi.
C'est pas évident, quand on démarre, justement, de comprendre un petit peu son positionnement. On a tendance aussi à se comparer aux autres. Tiens, lui, il a 10 ans d'expérience, bah, je vais me mettre un petit peu au même prix que lui, je vais m'aligner. Comment tu fais, justement, pour savoir ça? Parce que toi, la force que tu as eue, c'est que tu as eu des retours clients. Tous ne communiquent pas, en tout cas, sur ça. En général, quand tu proposes un tarif bas, c'est les clients qui sont contents, ils vont pas te dire, eh, monsieur, vous êtes moins cher. Comment, justement, toi, tu as eu cette lucidité en complément, justement, des gens qui t'ont dit « bah écoutez, monsieur, vous n'êtes pas assez cher ». Est-ce que tu as eu des mentors, des personnes qui t'ont un petit peu accompagné là-dessus ?
Pas là-dessus. J'ai eu des mentors et des gens qui m'ont aidé dans d'autres domaines, mais sur la question du tarif, pas particulièrement. Ce qui m'a aidé, c'est vraiment les retours clients et autre chose, me rendre compte que oui, en peu de séances, ils progressaient très vite. Et ils pouvaient atteindre des objectifs importants pour eux. Donc, j'enlevais vraiment beaucoup de douleurs assez vite. Je me suis dit, ben oui, forcément, ça se valorise. S'il avait fallu 6 mois pour atteindre un objectif, ben peut-être que 60 euros de l'heure, c'était raisonnable. Parce que dans le temps, en fait, on se voyait chaque semaine. Mais là, peut-être en 3 séances, c'est fini. Je veux dire, par exemple, j'aide des gens à faire des pitchs pour des levées de fonds. Une levée de fonds, on va chercher à aller 200 000 euros. Bon, avec moi, il faut 3 ou 4 séances, pas plus. Combien tu mets pour aller chercher 200 000 euros?
C'est ça qui est dingue, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que c'est avec ces résultats-là que tu t'es dit « maintenant, je vais me valoriser » parce que sur 200 000 euros, bah, je pense que tu en as... Alors peut-être que ce n'est pas le cas, mais pour moi, ce n'est pas incohérent de te dire qu'on est prêt à payer 10% justement de ces 200 000 euros pour aller chercher justement cette levée de fonds, en sachant qu'avant, on n'avait pas la capacité de le faire.
C'est ça.
Alors, c'est peut-être pas ce que tu as pris. Tu as pris 4 séances, donc on était à 4 fois 200, si je comprends bien.
Ouais, c'est ça. Tu vois, on est à 800 000 euros, quoi. C'est rien, quoi, en fait. Et moi, voilà, c'est un tarif avec lequel je suis à l'aise. Je sais que les gens, ils progressent très vite. Ils arrivent avec quelque chose qui est hyper efficace. J'ai dû, par exemple, assez récemment, enfin, il y a 2-3 mois, faire un pitch d'une minute pour une levée de fonds à 200 000 euros. Mais une minute, c'est extrêmement dur. Comment faire une analyse de marché devant des investisseurs et de notre activité et de taux de croissance en une minute? Bon, on a ciselé chaque mot, hein, vraiment. C'était vraiment hyper efficace. Mais la fille, elle a levé ses 220 000 euros, je crois.
Génial. Tu parles de ciseler chaque mot. Est-ce que tu prends en compte la personnalité de la personne? Question peut-être un peu bête. Ou vraiment, c'est une méthode qui s'applique un petit peu à tout le monde? Je prends l'exemple de la levée de fonds, du pitch. Est-ce que c'est vraiment applicable à tous les profils ou vraiment, faut prendre en compte la personnalité de chacun?
Ah, c'est pas une question bête du tout. C'est hyper intéressant. Non, en fait, c'est adapté à la personne. Ça peut pas être un truc générique. C'est pour ça que je peux pas vraiment mettre en place une formation asynchrone. Oui, je peux donner, et d'ailleurs je l'ai fait sous forme de bootcamp, et peut-être un jour je ferai une formation asynchrone avec des principes généraux. Mais pour faire un pitch, en fait, c'est la personnalité de la personne qui va convaincre. Et pour ça, c'est sa façon de s'exprimer à elle. Moi, je ne mets pas mes mots dans sa bouche. Je l'aide juste, avec ses mots, à faire un pitch qui lui ressemble et qui est efficace. Mais ce sont ses mots, c'est sa façon de s'exprimer. Sinon, si c'était mes mots, elle ne pourrait pas convaincre.
Oui, parce qu'elle n'aurait pas imprégné justement ces mots et ça se ressent.
Exactement. Okay. Exactement. Et dans une levée de fonds, alors là, les investisseurs, ce qu'ils recherchent, c'est la capacité de la personne à convaincre, à transmettre de la confiance, tu vois, à pas être stressé. Donc, ce serait tout l'inverse, ce serait contre-productif à mort si je faisais ça.
Tu parles du coup de la capacité à bien s'exprimer, donc tu accompagnes les gens de cette façon-là. La partie négociation aussi, elle doit être importante dans ces moments?
Oui, alors c'est plus la partie question-réponse, mais qui, oui, ça s'apparente à de la négociation. Où là aussi, j'interviens, c'est souvent la quatrième séance qu'on fait ensemble. Comment répondre à des questions délicates, difficiles ou auxquelles on n'a pas la réponse? Tout en transmettant de la confiance, en étant rassurant, en étant quelqu'un de bienveillant, de bon, et en allant chercher les sous, hein, parce qu'en fait, c'est ça quand on fait une levée de fonds. Et ça, c'est pas simple, parce que pareil, on ne nous apprend pas à répondre à ce genre de questions.
C'est un exercice pas évident, effectivement. On aborde avec toi, du coup, cette quatrième première fois. On n'est pas dans les premières fois les plus sympathiques, mais c'est des premières fois qu'on peut tous rencontrer, en tout cas quand on est entrepreneur. C'est ton premier impayé client. Moi, ce qui serait intéressant de savoir, pour moi, pour les personnes qui nous écoutent, comment tu l'as vécu, d'un point de vue émotionnel aussi, comment tu as géré cette partie-là, et savoir aussi si tu as réussi, du coup, à récupérer ton dû.
Ouais, merci beaucoup. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'agréable du tout. En fait, c'était un coaching pour une levée de fonds. Donc, on avait convenu de quelques séances, et le gars me payait après la séance. J'avais pas fait payer avant, à l'époque. Voilà, j'ai appris. Donc maintenant, tout est avant, je bouge pas tant qu'il s'est rien passé. Donc voilà, il me payait après, un dirigeant d'entreprise. Donc on bosse, on fait 2-3 séances. Il me paye après, on fait la dernière. Et il me paye pas, donc je m'inquiète pas. Moi, je suis un gars cool, ça se passe bien, tu vois. Je me dis, peut-être il a un petit oubli, pas de problème. Et puis le temps passe, les semaines passent. Et je vois, en fait, parce qu'on est connecté sur WhatsApp, je vois qu'il est à Dubaï. Donc je me dis, ok, bon, il se fout un peu de moi, quoi. Je veux dire, le type, il est pas à l'hôpital, quoi. Il a pas un problème. Il est en déplacement business. Je comprends que ce soit chargé. Mais faire un virement, c'est pas la mort non plus, quoi. D'autant qu'il l'avait déjà fait, donc il y avait rien à faire, si ce n'est appuyer sur trois boutons. Donc je lui envoie un message WhatsApp. Pas de réponse. Je lui envoie un message sur LinkedIn. Pas de réponse. Ok. Je laisse passer un peu de temps. Puis ça commence à me chauffer un peu, tu vois. C'est pas tant le fait qu'il m'ait pas payé, c'est le fait de pas avoir de réponse. Parce que s'il me dit, écoute, voilà, je suis en déplacement, c'est hyper chargé, j'ai pas le temps, je fais ça dans 2 semaines, je suis ok, c'est pas un problème, tu vois. Mais là, c'est plus le fait, voilà, on te ghost, on te parle pas, et je me dis quand même, il y a une presta, il va aller chercher de l'argent avec. J'aime pas ça. Donc au bout d'un moment, ça me chauffe vraiment. Ce que je fais, c'est que je vais sur la page entreprise et sur un des posts, je laisse un petit commentaire en disant « Est-ce que c'est dans votre habitude de ne pas payer les prestataires ?» Donc, je mets ça et je dis « Voilà, pour cette fois, j'ai la délicatesse de vous faire un message sur votre page entreprise que vous pouvez supprimer, la prochaine fois, je ferai un post que vous ne pourrez pas supprimer. Je te promets, dans les 10 secondes, mais vraiment, c'est littéral, 10 secondes, j'ai un message privé sur LinkedIn du type qui me dit « Je viens de voir ton message. » Non, sérieux? Et il me dit « Écoute, je suis très déçu de la façon dont tu présentes les choses. Je suis en déplacement à Dubaï. » Je lui dis « Écoute, moi, c'est pas le problème. » Je dis « Le problème, c'est que j'ai pas de réponse. » Je lui explique ce que j'ai en tête. Je dis « Moi, j'ai pas de réponse. J'ai pas de visibilité. » Je dis « Si tu m'avais dit ça, il n'y a pas de souci. Tu me donnais un délai, il n'y a pas de problème. » Je dis « Là, c'est juste ça le problème. » Il me dit « Écoute, tu comprendras que je veux plus qu'on travaille ensemble. » Je dis « Bah écoute, ça tombe bien. Ça m'arrange. Par contre, je veux bien que tu me payes. » Donc, il me dit « Je rentre demain en France, je te fais le virement. » Effectivement, il rentre en France, il me fait le virement. Il y a quand même un truc un peu rigolo avec cette histoire, parce que ça, c'est à l'époque où j'étais à 100 euros de l'heure. Tu vois, 100 euros la session. Enfin, les 45 minutes, parce que je fais 45 minutes, une heure à peu près. Donc voilà, le type me dit « Bon, je veux plus qu'on bosse ensemble. » Et genre, un mois après, donc j'avais augmenté mes tarifs à 200 euros. Et un mois après, il me recontacte et il me dit « Bon, finalement, j'aurais besoin qu'on fasse une ou deux sessions ensemble. » Je dis « Ok, pas de souci, par contre, mes tarifs ont doublé entre-temps. » Et il me dit « Ben écoute, c'est normal. » Il me dit « Ben, c'est ce que ça vaut. » Ouais, ouais, quand même.
Incroyable pour deux raisons. La première, pour moi, c'est... en gros, tu n'as pas à répondre sur sa page entreprise. Il ne comprend pas en fait que tu as cette manière de faire et du coup, ça ne lui donne pas envie de retravailler avec toi, malgré en fait tes relances sur LinkedIn et sur WhatsApp. Donc, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est sa perception à lui en fait. Il ne comprend pas que toi, tu puisses tenter le tout pour le tout alors que tu n'as pas eu de réponse déjà à tes premiers messages. Et la deuxième raison, c'est écoute, je ne vais plus travailler avec toi, mais bon, finalement, je me rends compte que j'ai encore besoin. Et puis là, j'aime bien me faire fouetter parce que je sais que tu viens d'augmenter tes prix, donc je prends quand même. J'ai un peu du mal à comprendre la personnalité, le personnage, mais est-ce que tu arrives à l'expliquer, toi?
Je ne sais pas trop, pardon. Je me dis que, voilà, son déplacement à Dubaï, peut-être, lui a effectivement pris la tête et il n'a pas pris le temps, tu vois, il n'a pas pris le temps de communiquer avec moi. Il a été piqué dans son orgueil que je mette un mot sur la page entreprise et en même temps il est hyper conscient de ce que je lui ai apporté. J'ai l'impression que c'est un mélange un peu de tout ça, tu vois, avec nos trucs à nous, hein, parce qu'on a tous nos trucs, voilà, avec les siens, peut-être ses défis, peut-être des choses que je maîtrise pas, tu vois, dans sa vie aussi. Mais j'ai l'impression que c'est un petit mélange de tout ça et voilà, à la fin il était conscient de ce que je lui ai apporté et il s'est dit ok, et en même temps j'ai pas le choix, quoi.
Ah, comme tu dis, sur le moment il est peut-être un petit peu piqué à l'orgueil et puis il est en déplacement, il n'a pas forcément la tête à ça, il n'est pas vraiment en phase avec lui-même. Il se rend compte que tu lui as apporté énormément de choses et il se dit bon, ce serait quand même un petit peu con, donc je vais le relancer. Bon, dommage, les prix ont doublé, mais c'est pas grave, j'y vais. Donc ça prouve à quel point il avait vraiment envie de refaire appel à toi.
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et pour moi, c'était rassurant aussi, tu vois, parce que quand on se lance, on a toujours un peu le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je vais être utile? Moi, j'ai beau avoir, tu vois, fait plus de 150 conférences, parler devant 10 000 personnes et des 400 personnes à prendre la parole en public. À partir du moment où tu monnayes, où c'est contre de l'argent, tu vois, pour toi, je veux dire, pas pour d'autres, mais pour toi, t'as quand même cette petite pression-là de se dire, est-ce que vraiment, je vais être utile? Et donc, sa réaction m'a rassuré en me disant, OK, t'es utile.
T'es utile. Carrément. Carrément utile, et c'est même moi qui te le dis, moi qui suis non pas, comme tu dis, un bébé preneur, mais pas l'entrepreneur le plus influent du monde, je peux t'assurer que tu es utile, et ça se voit en tout cas avec les clients notamment qui te suivent. Petite question, tu parlais de conférences notamment, donc avant d'aborder cette cinquième première fois, on est en train d'enregistrer, c'est pas du tout préparé, je te pose une question qui me vient comme ça, c'est plus difficile de faire une conférence devant 20 personnes ou 10 000 personnes? Pareil, question peut-être bête, mais est-ce que tu as une appréhension particulière en fonction du nombre de personnes ou il y a une façon de voir, une perception qui est la même, en tout cas pour toutes les conférences?
Alors, c'est une super question. En vrai, c'est plus difficile pour moi, hein. Après ça, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais pour moi, c'est plus difficile de faire une conférence devant 1 000 personnes que devant 10 000 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, les 1 000 personnes, généralement, ça dépend de là où t'es, mais généralement, tu vas voir les 1 000 personnes. Alors que les 10 000, tu les verras pas. Parce que bien souvent, 10 000 personnes, t'as des écrans. Donc en fait, toi, ce que tu vois, c'est peut-être une centaine de personnes et la caméra qui te filme. Parce qu'en fait, derrière, tu as des écrans qui te rediffusent, tu vois, à moins que tu sois dans un stade, mais généralement, c'est comme ça que c'est fait pour parler devant 10 000 personnes. Toi, tu parles à une caméra, à un petit panel de gens qui sont à peu près 100, 150, donc c'est une petite foule, mais tu te rends pas vraiment compte, en tout cas, moi, je me rendais pas vraiment compte des 10 000 personnes. Par contre, les 1 000 personnes, là où c'était, bah, tu te les prends tous dans la figure, quoi. C'est-à-dire que là, tu vois 1 000 visages devant toi et tu dis, OK. Là, il faut que j'envoie, quoi.
Et quelqu'un qui est très sensible, qui perçoit vraiment les émotions des gens, toi, tu es dans ton discours, tu es à fond justement dans ce que tu véhicules, tu transpires vraiment ton discours, il n'y a aucun sujet par rapport à ça, mais d'un seul coup, ton regard se pose sur un visage, sur une expression, peut-être quelqu'un qui parle à son voisin, qui peut être déstabilisant. Est-ce qu'il y a une technique, un exercice pour justement éviter de prendre ça de plein fouet et se détacher un petit peu de ce qu'on pourrait voir et ressentir pour chaque personne qui ferait des choses qui seraient un petit peu déstabilisantes?
C'est une bonne question et je dirais que ça dépendra des contextes. Par exemple, devant un auditoire de 20 à 100 personnes à peu près, il faut tenir compte de ces retours. Parce qu'une conférence, un discours n'est pas figé. En fait, tu as les grandes lignes, tu as bien répété, mais tu dois le faire vivre aussi en fonction de ton public. Donc ce genre de retour est hyper intéressant, parce que parfois il faudra que tu reviennes sur une idée, que tu la présentes de façon un peu différente, parce que tu sens que ça bloque, tu sens que quelqu'un dans sa tête là, et c'est pas passé, l'idée elle est pas rentrée. Donc là tu vas devoir t'adapter. Donc ce retour il est hyper intéressant, je dirais jusqu'à 100 personnes. Au-delà, par exemple 10 000 personnes, qu'est-ce que tu veux faire? Forcément que dans les 10 000, il y en a qui vont faire autre chose, quoi. Forcément qu'il y en a qui vont être sur Instagram, sur TikTok, forcément. Et là, t'as pas le choix. Tu peux pas tenir compte de ce retour-là, quoi. Donc, t'es obligé d'avancer. T'es beaucoup plus cadré, beaucoup plus structuré. Tu peux moins jouer avec le public quand même. En tout cas, pour moi, hein, c'est quand même plus compliqué. Tu vas tenir compte un tout petit peu des retours des 100, 150 personnes que tu vois, mais pas beaucoup plus.
Ok. Très intéressant ton retour. Merci pour ça. On aborde du coup cette cinquième première fois, ça veut dire qu'on arrive bientôt à la fin de l'épisode. Je n'aime pas arriver à la fin des épisodes parce que c'est toujours intéressant avec mes invités et ça l'est, en tout cas avec toi. Merci pour ça. Ta première grosse traversée du désert, ce qu'on appelle traversée du désert, c'est peu d'activités, peu de clients. Je crois que c'était juillet-août 2023. Raconte-nous un petit peu cette traversée, comment tu l'as vécue.
Ouais, c'est ça. Juin, c'est un beau mois, beau chiffre d'affaires. Des clients, tu vois, très content, quoi. Super. Lancement d'un bootcamp qui tourne, tu vois, vraiment que des trucs hyper positifs. Et puis, je dois rentrer en juillet et en août, je dois rentrer des nouveaux clients. Donc, tu vois, pas d'inquiétude. Et finalement, ça se fait pas. Et il n'y a pas de nouveaux clients juillet-août, c'est vraiment mort. J'ai quelques petits contrats, mais je crois que je fais même pas 1 000 euros de chiffre d'affaires, quoi. Tu vois, donc vraiment, vraiment, ouais, compliqué. Donc, comment je le vis? Grosse remise en question quand même. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce qu'en septembre ça va repartir? Est-ce que t'es à ta place? Est-ce que l'entrepreneuriat c'est fait pour toi? Est-ce que finalement tu devrais pas redevenir salarié? Tu vois, bon, voilà, plein de questions.
T'as même envisagé, du coup, quand tu dis redevenir salarié, de tout arrêter.
Ouais, c'est ça, parce que c'est pas compliqué. Si t'as pas de clients, l'argent rentre pas. Si l'argent rentre pas, tu manges pas. Bon, à un moment, il faut se poser de bonnes questions, quoi. Il faut se dire, comment je fais, quoi. Donc,
Et comment on trouve la persévérance pour justement se dire, on va passer cette traversée du désert. T'as quand même cette remise en question. Donc tu te dis, est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que, ça marche pas trop juillet-août, ou au contraire, tu te dis, de toute façon, ça a cartonné en juin, je grossis le trait. Donc, si ça a bien fonctionné en juin, il faut prendre en compte que ce soit les vacances. Il n'y a pas de raison qu'en septembre, ça ne fonctionne pas. Est-ce que tu as cette lucidité-là, ou au contraire, tu es vraiment sur le point d'arrêter?
Non, je n'étais pas sur le point d'arrêter. Ça fait partie des questions que je pense qu'il faut se poser. Mais effectivement, je prends en compte le fait que c'est l'été. Que deux clients m'ont... Voilà, les devis sont signés, mais finalement, ils rentrent pas. Bon, c'est quand même des clients qui, au total, faisaient 5 kilos, quoi, hein, par mois. Donc, c'est pas rien, tu vois. Donc, je me dis, OK, mais t'en as quand même eu deux qui, pour différentes raisons, finalement, ne rentrent pas, mais étaient intéressés, prêts à lâcher un peu. enfin pas mal. Donc tu vas en trouver d'autres. Il n'y a pas que deux clients. Septembre, ça va repartir. Et effectivement, septembre, c'est un mois où j'ai vraiment tout cassé, quoi. Mais voilà, t'es dans les questionnements, t'es à te dire, est-ce que ça va repartir? Est-ce que c'est juste parce que c'est l'été? Bah, ça boucle un peu dans ta tête, et en même temps, en disant, mais t'as quand même aidé des gens, t'as quand même des projets, t'as des partenariats qui sont un peu longs à se lancer, mais qui ont l'air de vouloir aussi faire quelque chose. Donc voilà, j'ai aussi prospecté pour la première fois. J'ai aussi prospecté, envoyé un message. Donc voilà, j'ai prospecté une fois dans ma vie, deux fois en tout. Et notamment cet été, et ça a marché en plus. Donc,
Ah ouais, dès le premier coup.
Ouais, c'était assez rigolo. Ouais.
Cool, tu parles de remise en question. Je pense que c'est normal, on traverse tous et toute cette partie-là. C'est une longue traversée du désert parfois, mais je pense qu'elle est nécessaire pour justement rebondir, revoir un petit peu son positionnement, faire ce travail sur soi. Je pense que c'est essentiel quand on est entrepreneur.
Ouais, je suis d'accord. Dans tous les cas, le business, il évolue aussi. Tu vois, moi, j'ai commencé formateur prise de parole en public. Ensuite, j'ai étendu au ghostwriting parce qu'il y a des points communs. Les leviers sont les mêmes pour convaincre, pour argumenter. Et comme j'ai été traducteur, tu vois, c'est transmettre les idées d'une langue à une autre. Là, le ghostwriting, c'est un peu transmettre les idées de la langue à la même langue, juste aider la personne. Et puis finalement, on est aussi venu me chercher pour faire un peu de biz dev, pour faire d'autres type d'activité. Donc je crois que oui, la remise en question, elle est constante. Est-ce que je suis toujours bien positionné? Est-ce que je me régale dans ces activités? Est-ce qu'il y en a d'autres que j'aimerais aller explorer, pour lesquelles peut-être j'ai aussi quelque chose à apporter? Bah, c'est quelque chose de passionnant, un peu déstabilisant au début, quand tu viens du monde du salariat où voilà, c'est beaucoup plus cadré. Mais je trouve que ça fait partie du jeu de l'entrepreneur et c'est hyper passionnant.
Absolument d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu conseillerais justement à une personne qui est encore issue du monde du salariat, qui se pose des questions, qui a envie de se lancer, pas forcément dans ton domaine d'activité, mais qui veut créer sa propre activité, lancer justement son projet? Ce serait quoi que tu aurais envie de lui dire, même si, comme tu m'as dit tout à l'heure en début d'épisode, je suis un bébé preneur? Moi, je pense que tu as quand même une année d'expérience assez riche, et je compare souvent l'année d'un entrepreneur à l'année des chats. On multiplie par 7, hein, parce que ça va tellement vite et il y a tellement de choses qu'on vit au quotidien. Qu'est-ce que tu lui conseillerais?
Peut-être vraiment le fait de se faire accompagner. Il y a quand même des structures qui accompagnent les entrepreneurs. Je l'ai découvert tardivement, mais par exemple, là, j'ai un partenariat avec la CCI de Porte de Normandie, que je salue, notamment parce que je les forme sur LinkedIn pour une stratégie d'employé advocacy. Mais j'ai découvert, par exemple, les CCI sont très peu connues et qu'elles proposent un accompagnement des entrepreneurs. Il y a d'autres structures qui le font, mais je pense que c'est bien de se trouver des mentors, de se trouver des structures d'accompagnement. Ça, c'est vraiment utile pour résoudre plein de questions.
Tellement d'accord avec toi. Tu parles de la CCI. Moi, je me suis fait accompagner en 2016, notamment sur la rédaction des statuts. C'était hyper important de le faire pour justement consolider et partir, en tout cas, sur une base solide quand on a une activité. Donc, c'est assez méconnu, entre guillemets. Enfin, c'est présent, je veux dire, en Île-de-France et ailleurs sur toute la France. Mais c'est assez méconnu dans le sens où on ne va pas forcément chercher ce type d'informations dès le départ, et je pense que c'est vraiment nécessaire, comme tu dis, en tout cas, de bien se faire entourer quand on lance son activité, surtout au début. On arrive à cette fin, du coup, de l'épisode. Marc, je te remercie 1000 fois, 1597 fois, même 3817 fois, pour ta générosité, pour ton calme, tes tips, ton énergie que tu nous as transmis. J'ai beaucoup apprécié, je ne pense pas être le seul. Donc merci encore à toi d'avoir participé aux premières fois dans l'entrepreneuriat et d'être présent sur ce podcast.
Merci beaucoup pour l'invitation, Alexandre. C'était un plaisir d'être avec toi.
Yes. Et moi, je vous dis à très vite avec un nouvel épisode ou une nouvelle invitée ou un nouvel invité. On verra bien. C'est la surprise. À bientôt. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à mettre un petit 5 étoiles avec un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast pour donner de la force à ce projet qui me tient vraiment à cœur.